France Inter, il est 19h. Le journal avec vous, Frédéric Beniada, bonsoir.
Bonsoir. À la une ce soir, l'offensive anti-violence de Donald Trump après les fusillades d'El Paso et de Dayton. Le président américain appelle démocrates et républicains à s'unir pour lutter contre l'idéologie raciste du suprémacisme blanc. Il s'en prend notamment à Internet, mais rien sur les armes à feu aux États-Unis. Nous allons y revenir dans un instant. C'est une mesure sans précédent qui provoque la colère du Pakistan. L'Inde révoque l'autonomie du Cachemire en proie à une insurrection séparatiste. Nous nous rendrons à New Delhi sur les risques de cette décision explosive. Ce drame dans un restaurant de Pornic où une fillette de 2 ans a été intoxiquée avec du détergent. On pensait lui avoir servi du jus de pomme, les parents ne décolèrent pas. Une charte pour les plages sans déchets plastiques présentée ce matin par Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique sur tous les fronts. Cet été, nous tenterons de comprendre cette omniprésence. Et puis au téléphone sonne ce soir, Yves Decaen, police et population, comment sortir du dialogue de sourds? Bonsoir Yves, vous avez la réponse?
Voilà, mais on verra avec nos invités, des manifestations violentes, des interventions policières qui peuvent paraître disproportionnées. Rarement les relations police-population avaient été aussi tendues, alors effectivement, comment revoir la stratégie du maintien de l'ordre? Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000.
Merci Yves, la météo demain, ça va mieux pour ceux qui avaient perdu le soleil, mais avec le retour des orages, nous dira Sébastien Léas.
France Inter.
2 jours après les fusillades d'El Paso et de Dayton aux États-Unis, Donald Trump s'est donc adressé à la nation depuis la Maison Blanche. Dans un discours très solennel, le président américain a qualifié les 2 attaques qui ont fait 30 morts de crimes contre l'humanité. Il a appelé à l'exécution rapide des auteurs de ces fusillades et insisté sur le rôle néfaste que jouerait Internet dans la radicalisation des personnes souffrant de troubles mentaux. Mais sur le fond, rien sur les armes à feu. À Washington, Gregory Phillips.
L'adresse à la nation est solennelle, 10 minutes, beaucoup de prières et de condoléances envoyées aux victimes et à leurs familles. Mais de manière assez curieuse, Donald Trump ne reprend pas l'idée qu'il avait évoquée quelques heures plus tôt sur le réseau social Twitter, celle d'un renforcement du contrôle des antécédents pour les acquéreurs d'armes à feu. Rien non plus sur une éventuelle interdiction des fusils d'assaut automatiques. Une nouvelle fois, le 45e président américain dit que ces fusillades sont des tragédies perpétrées par des monstres, mais que le problème ne vient pas des armes.
Nous devons réformer nos lois sur la santé mentale pour mieux identifier les individus dérangés qui commettent des actes de violence et faire en sorte que ces gens ne soient pas seulement soignés, mais quand c'est nécessaire, soient placés d'office. C'est la haine et les problèmes de santé mentale qui appuient sur les gâchettes, pas les armes.
Donald Trump condamne en revanche de manière explicite le suprémacisme blanc qui a sans doute inspiré le tireur du Texas et parle de terrorisme intérieur. À El Paso, les rassemblements d'hommages aux victimes continuent et un homme venu planter des croix blanches devant le Walmart où a eu lieu le massacre dit que de toute façon on ne peut rien y faire, que cette violence des armes à feu est un cancer incurable. El Paso, Grégory Phillips, France Inter.
Et parallèlement à cette déclaration de Donald Trump, le Mexique a annoncé son intention de s'impliquer directement dans l'enquête sur la tuerie d'El Paso. Sur les 20 morts, 7 sont de nationalité mexicaine. Dans un manifeste retrouvé par la police, le tueur aurait évoqué une invasion hispanique du Texas comme motif du carnage, crime à caractère haineux. Des poursuites judiciaires pour terrorisme à l'encontre du tueur pourraient être lancées au nom de l'État mexicain. Emmanuel Stills est à Mexico.
C'est un acte de terrorisme contre les Mexicains aux États-Unis. La position du Mexique sur la tuerie d'El Paso est sans équivoque. Le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a annoncé des poursuites judiciaires pour terrorisme et une éventuelle demande d'extradition de l'auteur des faits. Mais le Mexique veut aussi traîner devant la justice tous ceux qui ont permis aux tueurs d'El Paso de s'armer. Depuis quelque temps déjà, le gouvernement mexicain a fait de la vente libre des armes aux États-Unis un enjeu des relations diplomatiques, critiquant ouvertement l'absence de contrôle au nord de la frontière et le laxisme par rapport au trafic d'armes destiné aux organisations criminelles mexicaines. Maintenant que ces armes se retournent contre ses ressortissants aux États-Unis, le Mexique hausse le ton. Le président Andrés Manuel López Obrador a aussi condamné la haine de l'étranger alimentée au nord de la frontière. Le chef de la diplomatie mexicaine se rend à El Paso ce lundi pour rencontrer les proches des victimes et réclamer depuis le Texas des mesures plus énergiques pour protéger la communauté hispanique des attaques à caractère haineux. Mexico et Emmanuel Stills, France Inter.
À l'étranger, toujours, l'Inde durcit sa mainmise sur le Cachemire en révoquant son autonomie constitutionnelle. Cette décision explosive va placer sous la tutelle plus directe de New Delhi, cette région rebelle revendiquée par le Pakistan. Islamabad a vivement condamné cette mesure sans précédent, préparée dans le plus grand secret par les nationalistes hindous. Une décision illégale pour le Pakistan. À New Delhi, Sébastien Farsi.
Quand le ministre de l'Intérieur a annoncé la fin du statut exceptionnel du Cachemire ce matin, deux députés du plus important parti de cette région, le PDP, sont sortis de l'Assemblée en déchirant la Constitution. Souhel Boukhari, porte-parole de cette formation, explique pourquoi.
En 1947, la région du Jammu et Cachemire a accepté de rejoindre l'Union indienne et de devenir le seul État à majorité musulmane du pays. Elle l'a fait après avoir reçu des garanties édictées par l'article 370 de la Constitution. Aujourd'hui, 70 ans après, vous nous dites qu'on peut effacer ces dispositions et que tout ira bien. Non, c'est inacceptable. Ce qui vient d'arriver est illégal et antidémocratique. Nous avons toujours dit que cet article 370 est le seul lien entre l'union de l'Inde et le Jammu et Cachemire. Si vous coupez ce lien, l'Inde devient une force d'occupation. You become
an occupation. Le gouvernement s'attend à une réaction violente de la part des groupes indépendantistes. Il a donc imposé un couvre-feu, l'internet mobile est coupé et environ 50 000 militaires ont été envoyés en renfort au Cachemire, s'ajoutant aux 700 000 présents de manière permanente. À New Delhi, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
Et en prévision de possibles troubles, les autorités indiennes ont déployé ces derniers jours plus de 80 000 soldats supplémentaires dans cette région déjà hautement militarisée. Hong Kong, paralysé par une grève générale aujourd'hui après un nouveau week-end de manifestations, les pro-démocratie ont bloqué aujourd'hui trains, métro, routes et aéroports, ce qui a provoqué une belle pagaille. La police a riposté à coups de tirs de gaz lacrymogène. Plus de 400 personnes ont été interpellées depuis plusieurs mois. Les manifestants réclament plus de démocratie. Une démocratie menacée par l'emprise du gouvernement chinois sur cette ancienne colonie britannique. Guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Brexit et baisse des taux, la banque HSBC contrainte à d'importantes coupes claires malgré des bénéfices en hausse. Le géant britannique va supprimer près de 4000 emplois dans le monde et annonce dans la foulée le départ surprise de son patron John Flint. La banque veut du sang neuf face aux nombreux défis qu'elle a à relever. À Londres, les précisions d'Otsoufiche.
Un programme de restructuration, c'est comme cela que le directeur financier d'HSBC décrit ce plan de suppression de postes. 4000 salariés licenciés dans le monde, principalement des postes à responsabilité, des cadres aux salaires importants. Ce plan, qui va coûter cette année plus de 625 millions d'euros à la banque, vise à réduire ses coûts dans un environnement de marché difficile, explique le groupe. HSBC a pourtant annoncé aujourd'hui des résultats en hausse pour le premier semestre, avec un bénéfice net en progression de 15,8%, mais assorti d'une grande prudence pour les mois qui viennent. Le communiqué publié prévient les investisseurs qu'une période difficile s'annonce. Comme le reste du secteur, la banque britannique, très active en Asie, subit la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, les remous politiques à Hong Kong et les incertitudes liées au Brexit. Les cadres licenciés ne seront pas les seuls à quitter l'entreprise. Son patron John Flint a annoncé sa démission un peu plus tôt, sans vraiment donner d'explication, après seulement un an et demi à ce poste. À Londres, Otsoufi, France Inter.
Un terrible bain de sang en Libye, au moins 42 morts, une centaine de blessés dans un raid aérien dans le sud du pays, à Mourzouk, hier soir. Les forces du maréchal Haftar assurent qu'elles ne visaient pas de civils. Depuis 5 mois, elles s'opposent au gouvernement en place et tentent de reprendre le contrôle de Tripoli.
Le journal de 19h sur France Inter.
Au lieu d'un jus de pomme, on lui a servi un verre de détergent. Une fillette de 2 ans gravement brûlée dans un restaurant de Pornic la semaine dernière. Une négligence aux conséquences dramatiques. L'enfant pourrait perdre son œsophage. Les parents ont porté plainte. Bertrand Pidance.
Le père ne décolère pas dans les colonnes de Ouest-France. Il parle d'une négligence grave. Heureusement, aujourd'hui, les jours de son enfant ne sont pas en danger. Elle est sous sédatif, sous assistance respiratoire. Son état est stable, mais les conséquences pour sa santé et précisément son œsophage risquent d'être très graves. L'hôtel-restaurant, de son côté, se dit effondré. En fait, c'est un employé qui aurait commencé à mettre un produit de lave-vaisselle dans un contenant qui sert aux boissons. Il le pose sur le comptoir. Un collègue croit qu'il l'a oublié et le met au frigo. Quand la fillette commence à boire ce que les parents croient être du jus de pomme, tout de suite l'enfant régurgite. Les parents goûtent alors pour comprendre ce qui se passe. Eux aussi seront plus légèrement intoxiqués. C'est le parquet de Saint-Nazaire qui est chargé de l'enquête.
Zéro plastique rejeté en mer d'ici 2025, c'est l'objectif très ambitieux du gouvernement qui vient de lancer une nouvelle charte pour lutter contre les déchets plastiques sur les plages. Une dizaine de mesures annoncées par Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique à la Seyne-sur-Mer dans le Var ce matin. Brune Poirson, très discrète lors de son entrée au gouvernement et depuis le début de l'été omniprésente sur la scène médiatique, Karine Bécard.
C'est vrai, elle a incontestablement changé. Brune Poirson a visiblement décidé de rentrer dans la mêlée. Aujourd'hui donc, elle présente de son dispositif zéro plastique. Il y a 15 jours, elle se permettait de rappeler à l'ordre Nicolas Hulot, son ancien ministre de tutelle, dans les colonnes du journal Le Parisien, pour lui demander sur le CETA d'avoir un peu le sens des responsabilités, sans oublier, il y a un mois, c'est elle, toujours Brune Poirson, qui faisait la une du JDD. On est très loin des deux premières années, on est très loin de cette époque où chaque sujet qui la concernait était systématiquement présenté, incarné par le Premier ministre Édouard Philippe, sur l'économie circulaire, par exemple, en avril 2018, ou plus récemment sur l'interdiction de la destruction des produits non alimentaires. En fait, cette novice de la politique, qui au début pouvait manquer de clarté quand elle s'exprimait, notamment sur la finance verte, mais pas seulement, a pris de l'assurance, de la confiance, sans doute, parce qu'en 26 mois, Brune Poirson a vu partir les deux ministres dont elle dépendait, Nicolas Hulot et François de Rugy. Elle est restée, et avec l'accélération de l'urgence écologique, elle se montre manifestement prête à saisir de nouvelles opportunités politiques.
Karine Bécard, l'inquiétude demeure toujours sur le chantier de Notre-Dame. Il devrait normalement reprendre progressivement la semaine prochaine. Il avait été suspendu fin juillet par la préfecture pour protéger les employés exposés aux particules de plomb contenues dans la toiture. Des employés du chantier et des syndicats pas tout à fait rassurés réunis ce matin devant le parvis de la cathédrale. La mairie de Paris, elle annonce des opérations de dépollution. Delphine Evenou.
Oui, le 15 avril, 400 tonnes de plomb ont fondu dans l'incendie. Il faut des mesures à la hauteur des menaces, exige ce collectif d'associations et de représentants CGT, inquiet des conséquences sur la santé des riverains et travailleurs du secteur. Ils doivent être pris en charge, explique Annie Thébaumoni de l'association Henri Pezra, spécialisée dans la santé au travail.
Il faut un centre de suivi où les personnes puissent questionner, avoir de l'information, avoir un suivi clinique et qu'il y ait un recensement de tous ces problèmes de santé, de symptômes qui vont apparaître au fil du temps. Mais ce n'est pas un suivi pendant un an, c'est un suivi pendant des décennies. Et qu'on puisse, nous en santé publique, en tirer des enseignements pour une meilleure prévention dans des situations analogues.
Le collectif a réclamé aussi ce matin un confinement total du chantier de Notre-Dame pour lutter contre la volatilité des particules. Une mise sous cloche pas adaptée a répondu quelques heures plus tard la mairie de Paris dans un premier point de suivi sur le plomb. Mais on agit avec une intensification du traitement de la pollution dès cette semaine, assure Anne Souéris, adjointe chargée de la santé.
Ce parvis et les rues adjacentes vont être traités à partir du 7 août, donc dans deux jours. Et d'ici la fin du mois, l'objectif est que ce parvis et ses rues adjacentes soient définitivement dépollués.
Objectif aussi que les enfants puissent retourner à l'école dans le secteur dès la rentrée. De nouveaux relevés sur les taux de plomb sont attendus demain de la part de l'agence régionale de santé, et de la préfecture de police. Ils seront publiés sur le site de la mairie de Paris pour éviter toute suspicion.
Delphine est venue au chapitre judiciaire. Le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, va être muté, proposé au poste d'avocat général près la cour d'appel de Lyon. Cette proposition devrait être entérinée début septembre par le Conseil supérieur de la magistrature, Jean-Michel Prêtre, qui semble payer un faux pas dans l'affaire Geneviève Leguet, cette septuagénaire blessée lors d'une charge policière lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Jean-Philippe Deliot, vous allez nous rappeler les faits et nous dire s'il s'agit ou non d'une sanction d'abord.
Alors, le 23 mars dernier, charge de la police à Nice, Geneviève Leguet est bousculée et blessée. Le 25 mars, le procureur affirme qu'elle n'a pas été touchée par les forces de sécurité. 27 mars, rétro-pédalage, Jean-Michel Prêtre reconnaît que c'est bien un policier isolé qui a provoqué sa chute. Devant le directeur des services judiciaires, le procureur de Nice expliquera qu'il avait dans un premier temps dédouané la police pour ne pas embarrasser l'Élysée après une communication d'Emmanuel Macron dans ce sens. Agacé par cette attitude contraire à l'image d'indépendance des magistrats, le ministère de la Justice choisit donc aujourd'hui une mutation dans l'intérêt du service. Ce n'est pas proprement parler une sanction. Jean-Michel Prêtre occupera à Grenoble une fonction du même grade, mais une fonction beaucoup moins prestigieuse.
C'est une décision courante.
Oh non, mais il n'est pas non plus le premier procureur à devoir s'éloigner de sa juridiction. Il y a 5 ans, Philippe Muller avait dû quitter Saint-Denis de la Réunion pour Grenoble après une sombre affaire de courriers anonymes visant un de ses magistrats. En 2012, à Nanterre, le procureur Philippe Courroy avait été déplacé à Paris pour mettre fin à un climat tendu avec les magistrats de la juridiction. Pour Jean-Michel Prêtre, c'est donc Lyon, et non pas Grenoble, Lyon. Un choix étrange quand on sait que c'est à Lyon justement que l'affaire Geneviève Le Guay a été dépaysée.
Jean-Philippe Degnaud, chef du service police-justice de France Inter. Le mariage de Renault et de Fiat de nouveau à l'ordre du jour. Le patron de Fiat, Chrysler, se dit prêt à relancer avec Renault les discussions pour fusionner les deux constructeurs si les circonstances devaient évoluer. La logique industrielle qui prévalait avant existe toujours, déclare Macaulay dans un entretien au Financial Times. Le gouvernement va prendre contact avec la direction de Tati. Les représentants du personnel et les syndicats ont été reçus ce matin au ministère du Travail. Leur repreneur leur a annoncé il y a 2 semaines la fermeture de 13 magasins et la suppression de 189 postes. Les syndicats n'excluent pas une mobilisation à la rentrée prochaine. C'est un nouveau et inquiétant record. Le mois de juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, selon une agence européenne. 0,04 degrés Celsius de plus que le précédent record de 2016, qui avait été marqué par l'influence du phénomène El Niño dans le Pacifique. L'Institut assure que les records continueront à être battus en raison de l'augmentation constante des gaz à effet de serre. Et puis on a appris ce soir la mort d'Henri Bellolo, si ce nom ne vous dit rien, Yves Decamp. Il était, bien sachez-le, l'un des producteurs avec Jacques Morali du groupe Village People et le fondateur aussi du label Scorpio Music dans les années 80. Henri Bellolo avait 82 ans, il était donc également fondateur de Scorpio Music. Toute la carrière d'Henri Bellolo sur le site de France Inter qui lui consacre un article. Vous avez dessiné un petit parapluie avec, ça veut dire qu'il y aura des orages demain. C'est avec vous la météo, Sébastien Léas.
Oui, on a même déjà des averses orageuses qui touchent l'est du Massif Central en se décalant vers la vallée du Rhône jusqu'aux Préalpes. Et puis après une période d'accalmie en cours de nuit et demain matin, l'instabilité va reprendre l'après-midi et elle sera plus marquée qu'aujourd'hui. Il faut donc s'attendre à de nouvelles averses orageuses en Auvergne-Rhône-Alpes. Les premières averses se développant en début d'après-midi. Les orages seront localement forts et de fortes rafales de vent mais aussi de la grêle sont à craindre. En deuxième partie d'après-midi, le risque d'averses et d'orages forts s'étendra également sur la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine et la Champagne.
Tout le monde sera servi des pluies également dans le Nord-Ouest.
Oui, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, l'Ouest du bassin parisien, les Hauts-de-France et les Ardennes sont actuellement concernés par une perturbation. Cette perturbation est encore peu active et ne donne que quelques pluies en ce moment, notamment entre la baie du Mont-Saint-Michel et l'embouchure de la Seine. Mais dès la fin de nuit, des passages pluvieux plus marqués sont attendus, glissant des plages de l'Atlantique vers les frontières de la Belgique. Les pluies seront même parfois orageuses. Partout ailleurs, le temps sera plus clément. Dans le sud-ouest, le soleil sera tout de même bien voilé alors qu'il dominera autour de la Méditerranée. Près du golfe du Lion et sur le sud Aquitaine, les éclaircies seront quand même contrariées par des grisailles localement persistantes. Et puis les températures de demain seront comprises entre 21 et 26 degrés sur le nord-ouest, mais 26 à 36 degrés sur le reste du pays.
Merci Sébastien Léas.